C'est le journal d'Elia Bergel. Bonjour Elie.
Bonjour, bonjour à tous. Le moonwalk sur la piste de danse. Les boîtes de nuit ont rouvert leurs portes hier. Après 16 mois de fermeture, les fêtards munis de leur passe sanitaire ont dansé toute la nuit pour se vider la tête. Tout oublié à la plage aussi. Les juilletistes en vacances veulent décompresser malgré la menace du variant Delta. Reportage à Toulon dans ce journal. Et puis sur le Tour de France, Mark Cavendish entre dans la cour des très très grands. Il égale hier le record de victoire d'étape sur cette course de la légende Eddy Merckx.
France Inter.
Les cocktails, les amours d'une nuit et les oreilles qui sifflent en sortant. Les discothèques ont donc rouvert hier après 16 mois de fermeture. Une jauge à 75%, le pass sanitaire. Réouverture sous conditions drastiques. Mais cela n'a pas empêché les fêtards de sortir cette nuit à Cannes, Yann Gallic.
Plus de 500 personnes qui se déhanchent sous les boules à facettes de la piste de danse. Ça n'était pas arrivé depuis presque un an et demi.
Qu'est-ce que c'est bon de vous retrouver !
C'est un immense bonheur pour les jeunes habitués du Bisou Bisou, cette discothèque installée juste à côté du Palais des Festivals.
C'est l'été, on est jeunes, ça fait du bien de profiter un peu. Ça m'avait manqué. Moi, je suis ravi.
On n'en peut plus. On a juste envie de sortir, de s'amuser, de décompresser de ce Covid.
C'est un plaisir de se retrouver en amis, enfin, avec de la musique et jusqu'à 5h du matin. Donc
là, vous allez danser vraiment jusqu'à la fermeture.
Oui, on en profite jusqu'au bout. Hein. Tant qu'on y est, on y reste.
Mais qu'est-ce qu'on vous aime !
Au platine, celui que l'on surnomme ici Mozart est l'un des DJs de la soirée. C'est aussi le directeur artistique de cette boîte de nuit.
On a rêvé cette nuit, on a rêvé cette soirée. On a rêvé le moment où on allait enfin pouvoir vibrer ensemble. Sur le pas sanitaire, il faut jouer le jeu. On va être hyper strict et hyper rigoureux. Personne ne passera à travers les mailles du filet parce qu'on ne peut pas prendre de risques. Et on va être hyper, hyper attentif sur les gens qui accèdent à l'établissement.
Comme tous les professionnels de la nuit, Mozart espère que cette joie ne sera pas éphémère et que les discothèques ne seront pas obligées de refermer rapidement avec la progression du variant Delta.
Et ce variant Delta, justement, il continue sa diffusion éclair en France. 4500 nouveaux malades du Covid-19 ces dernières 24 heures, 2600 il y a une semaine. En revanche, les hospitalisations continuent de baisser.
Et cette mutation du virus inquiète en particulier dans les lieux les plus touristiques comme le Var.
Plusieurs foyers de contamination repérés dans ce département. Mise en garde officielle du préfet pour inciter habitants, touristes à respecter les gestes barrières. Mais sur les plages de Toulon, Céline Autain, les vacanciers ont surtout envie de se vider la tête.
C'est l'heure des premières baignades dans la Grande Bleue pour Nicolas et ses trois filles arrivées de Saône-et-Loire. Les premiers châteaux de sable aussi pour ce chauffeur routier qui se prend au jeu et oublie un peu le quotidien.
Ah bah, étant donné que je travaille 52 heures par semaine, oui, ça fait du bien un peu de répit. À la base, on devait aller au Maroc, mais vu les conditions, il fallait un test PCR à chaque fois, pour les enfants aussi, donc on a annulé. Ouais.
Et pour des vacances heureuses jusqu'au bout, Nicolas a pris d'autres précautions. Et
surtout, on s'est vacciné, sinon on peut rien faire. Que là, comme ça tourne mal, j'ai l'impression.
La faute au variant Delta, qui explose aussi dans le Var. Il représente 70% des contaminations analysées dans le département, selon le préfet. Comme une impression de jouer la montre pour Yann, un Parisien de passage avec ses enfants.
On va essayer vite d'en profiter parce qu'on sent que ça va se refermer, se reboucler à la rentrée un petit peu. Donc tout ce qui est aussi exposition, cinéma, on va essayer d'en profiter un petit peu tout en faisant attention.
Richard habite juste à côté de Toulon. Ce retraité vient quasiment tous les matins avec des amis et ils commentent ensemble les dernières nouvelles.
Il y a débat sur ceux qui préfèrent les tests. Bon, après, les préoccupations des gens sont différentes. Je comprends que oui, ça les préoccupe sur place et puis qu'une fois en vacances, ils pensent à autre chose.
Un peu d'inquiétude donc chez les locaux. Et ce message répété par le préfet du Var, le virus ne prend pas de vacances. Il rappelle que le port du masque reste obligatoire en intérieur, sur les marchés, dans les bus et dans les gares.
Céline Autain, et au-delà des gestes barrières, le vaccin est une arme redoutablement efficace pour mettre cette épidémie de coronavirus au tapis. La Haute Autorité de Santé recommande de le rendre obligatoire pour l'ensemble des professionnels en contact avec des personnes vulnérables. Il faut aussi réfléchir à imposer la vaccination à toute la population, dit la HAS dans un avis rendu hier, car cela pourrait devenir nécessaire. Les détails de cet avis dans le journal de 7h30. Ces questions épineuses, polémiques, devraient être au menu de l'allocution d'Emmanuel Macron après-demain soir, lundi. Le chef de l'État s'exprimera à 20h depuis l'Élysée sur fond de dégradation de la situation épidémique. Un conseil de défense sanitaire se tiendra avant la prise de parole du président. L'avenir s'écrit de nouveau en pointillé, donc, alors que le variant Delta propage son lot d'incertitudes. À quoi ressemblera la rentrée universitaire? Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, dit hier qu'elle veut 100% des étudiants dans les campus en septembre, avec une réserve néanmoins sur les cours dans les amphithéâtres. Guillaume Gellet, le vice-président de la conférence des présidents d'université, s'attend à un enseignement à distance également si nécessaire.
Ce que l'on souhaite, c'est que tous les étudiants reviennent sur les campus en présentiel, mais nous avons aussi appris pendant cette crise sanitaire, et dans certains cas, nous avons mis en place des modalités pédagogiques plus interactives avec les étudiants qui utilisent des outils numériques et qui permettent à un moment donné aussi, on va dire, de ne pas forcément avoir tous les étudiants en présentiel en même temps. Donc la pédagogie a aussi un petit peu évolué. Et donc ce que l'on fait, c'est que on envisage une rentrée selon des modalités pédagogiques que l'on pourrait appeler non contraintes par la crise sanitaire. Et après, s'il y a des contraintes donc liées à la crise sanitaire, eh bien on aura des jauges de salles qui effectivement seront modifiées, et là il faudra peut-être accroître donc l'usage des technologies numériques et notamment les enseignements hybrides. Mais pour la rentrée, ce que nous envisageons, ce sont bien des modalités pédagogiques non contraintes par la crise sanitaire.
Et Guillaume Gellet, le vice-président de la conférence des présidents d'université.
7h06 sur France Inter. Bagui Traoré acquitté hier par la cour d'assises du Val-d'Oise.
Ah, c'était le procès des émeutes à Beaumont-sur-Oise et Persan, celles qui ont suivi la mort de son frère Adama en 2016 après son interpellation par des gendarmes. Jusqu'à 12 ans de prison ont été prononcés contre deux accusés reconnus coupables de tir contre les forces de l'ordre. Bagui Traoré était soupçonné d'être l'un des instigateurs des émeutes. Il a toujours clamé son innocence. Les talibans affirment contrôler désormais 85% du territoire en Afghanistan, notamment deux importants postes frontières avec l'Iran et le Turkménistan. Le retrait de l'armée américaine du pays est quasiment terminé. Voilà 4 ans, jour pour jour, en Irak, que les autorités annonçaient la libération de Mossoul. La ville était aux mains de Daesh de 2014 à 2017. Et juste avant leur départ, les terroristes ont fait sauter la mosquée Al-Nouri et son célèbre minaret penché. L'UNESCO a donc lancé un programme de reconstruction, un concours d'architectes pour rebâtir l'édifice. Mais le design fait polémique, Lucille Wasserman.
Sur le site de la mosquée Al-Nouri, une quinzaine d'ouvriers s'activent pour solidifier les fondations. 4 ans après la libération de la ville, la reconstruction n'est encore qu'à ses balbutiements, explique Omar Taka, représentant de l'UNESCO.
Nous avons retiré quelques 5600 tonnes de gravats de la salle de prière et du minaret et une vingtaine d'engins explosifs improvisés environ.
Coordonné par l'UNESCO et les autorités irakiennes, financé par les Émirats arabes unis, le projet de reconstruction est scruté de tous. Car pendant des siècles, son minaret était le symbole de la ville.
Le minaret sera exactement pareil pour ce qui est des nouveautés. Il y aura une école, un institut et d'autres activités également.
Imaginés par 8 Égyptiens, ces bâtiments cristallisent les tensions, car de grands architectes locaux n'en approuvent pas l'esthétique. Moqtad Jamil, la soixantaine, en fait partie.
Il propose de construire une école suivant un design qui n'est pas du tout celui propre à la ville et qui en plus va cacher la vue du minaret.
Beaucoup de Mossouliotes partagent cet avis, mais plus qu'une question de design, ces habitants pointent surtout du doigt la lenteur de la reconstruction de la vieille ville, dont une grande partie est toujours en ruine. Mossoul, Lucille Wasserman, France Inter.
Haïti demande cette nuit à Washington et à l'ONU l'envoi de troupes pour sécuriser des sites stratégiques. Le pays menace de s'enfoncer un peu plus dans le chaos depuis l'assassinat de son président mercredi. Jovenel Moïse tué chez lui, criblé de balles par un commando de 28 assaillants selon la police.
Mark Cavendish écrit son nom dans la légende du Tour de France.
Le Britannique est allé chercher hier une 34e victoire d'étape. Il égale le record d'un certain Eddy Merckx, dit le cannibale. Du coup, Fanny Lechevestrier, on a forcément envie de comparer les deux champions.
Extraordinaire, impressionnant, les superlatifs ne manquaient pas hier soir à Carcassonne pour qualifier la performance du sprinter britannique revenu du Diable Vauvert pour s'offrir à 36 ans 34 victoires sur le Tour, aussi glouton que le cannibale 45 ans plus tôt. De là à mettre les deux coureurs sur un pied d'égalité, la réponse fuse quand on interroge Eddy Merckx en personne.
C'est bien sûr pas comparable, mais il est différent, je pense, entre un sprinter et gagner sur tout le terrain. Quoi.
Pas la même époque, encore moins le même palmarès que le quintuple vainqueur du Tour de France. Depuis plusieurs jours, Mark Cavendish botte aussi systématiquement en touche dès que la comparaison est évoquée.
On a le même nombre de victoires, mais les personnes qui nous comparent, ce sont des personnes qui ne connaissent pas le vélo.
Mais à défaut d'être l'égal de Merckx, Christian Prudhomme, le patron du Tour, décerne aux caves un autre titre de numéro 1 dans l'histoire du cyclisme.
Ça n'est évidemment pas le plus grand coureur de l'histoire du Tour de France, mais lui, c'est sans aucun doute le plus grand sprinteur de l'histoire du Tour. Donc voilà, c'est un sacré bonhomme et c'est encore une fois le plus grand sprinteur de l'histoire.
Et c'est déjà finalement pas mal pour un coureur qui n'avait plus levé les bras sur le Tour depuis 5 ans et qui, il y a un mois, ne devait même pas être au départ de la plus grande course du monde.
Fanny, le Chevestrier aujourd'hui, 14e étape du Tour entre Carcassonne et Quillan dans l'Aude. Départ 12h40.
C'était le journal d'Elia Bergel. Merci à vous. Le temps de ce samedi.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Jean-Michel Golinski, on attend du bleu au sud, mais de la pluie au nord.
Ah, effectivement, avec que du soleil aujourd'hui au sud d'un axe Charente-Dauphiné, dans des températures approchant les 30 degrés de la Garonne au Dauphiné sur la Corse et le pourtour méditerranéen. Le soleil va également briller du nord-est au Lyonnais avant une dégradation pluvio-orageuse prévue en fin de journée. Mais dans la partie nord, la pluie survole déjà ce matin les pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. En journée, en prenant une tournure orageuse, ce temps perturbé va gagner les Hauts-de-France, le bassin parisien et le centre, puis les frontières de l'Est en fin de journée, dans des températures naturellement plus basses qu'au sud, avec 18 degrés prévus près de la Manche, 21 à Rennes et Paris et 23 à Reims, ainsi qu'à Bourges.
Merci Jean-Michel Golinski.